Quotidien avec Hélène Denis.
J'espère que vous allez bien en ce 4 septembre 2025. Bon jeudi. Une autre très belle journée ensoleillée. Alors, on va en profiter pendant que ça va passer parce qu'on prévoit du temps un peu plus frais et peut-être de la pluie. Mathieu Tessier est devant moi. Tout bang, Mathieu?
Oui, tout bang, tout bang.
Mi fougue, mi raison.
Exactement.
Je pense que vous alliez, si vous allez à la licorne, là, c'est j'ai pensé à vous. C'est
ah oui.
un peu votre délire là, qui est mis en scène, une belle folie. Trip, hier, j'avais une entrevue avec Mathieu Quesnel, l'auteur et metteur en scène de cette pièce qui met en vedette 14 comédiens et comédiennes, dont l'excellent Yves Jacques et l'excellent Éric Bernier, qui sont, j'allais dire, plus fous que jamais. Ils sont bons dans le délire. C'est vraiment une pièce de grand délire. Le public était en liesse. Ça applaudissait à la toute fin. Donc, je pense que les gens ont embarqué dans le trip de Mathieu Quesnel. Et on est dans une univers qui fait penser au poète Claude Gauvreau, aussi à l'humour des Denis Drolet, des adultes qui jouent avec un plaisir qu'on observe chez les enfants et juste pour ça, ça vaut le détour. On comprend pas tout, on n'aime pas tout, mais on embarque. Alors, et si vous voulez connaître Lucie Sauvé d'amour, les initiales LSD, et sa bande qui monte une pièce de théâtre. Il y a toutes sortes de couches, plusieurs couches dans cette pièce-là. Mathieu Quesnel le disait d'ailleurs. Et donc, quelquefois, on est complètement largué, mais pas longtemps. Et au début, peut-être que ça va vous aider. On nous offre du Kool-Aid avec ou sans drogue. C'est une blague, bien sûr, mais il y en a pour vrai. Là. Il y a des gens qui prennent un petit verre de Kool-Aid en entrant. Je ne savais pas que ça existait encore, du Kool-Aid. Alors, si vous avez envie de ce trip, ça se passe à la licorne. Les billets s'envolent vite, vite, vite. Et il y a déjà des supplémentaires. C'est jusque 24-25 septembre dans la plus grande salle de la licorne. Et on est tout autour là, de ces acteurs, personnages un peu fous, un peu beaucoup même.
Est-ce qu'Yves Jacques avait raison de ne pas comprendre
oui.
tout de suite le
oui.
sens de la pièce?
Je me suis identifiée à lui parce que quelquefois, c'est pas je disais largué, mais c'est pas vraiment ça parce qu'on n'est pas abandonné, sauf que c'est pas nécessairement toujours clair où on est exactement. Mais on est ramené pareil. Il y a un recherchiste, il s'appelle Guylain et qui est incarné par Éric Bernier qui remet les pendules à l'heure. Donc ça aide et... Donc, c'est ça, il faut s'abandonner. Il faut savoir s'abandonner dans la vie, n'est-ce pas, Monique?
Ah, totalement.
Vous, je pense que vous aimeriez ça parce que vous avez cet esprit hippie, beatnik-là, parce que c'est comme une sorte d'hommage à la contre-culture des années 60 et ça nous donne envie d'être plus présents parce qu'on est dit au début d'abandonner nos écrans, nos téléphones cellulaires et d'être avec les humains et d'en profiter.
Oui, c'est intéressant parce que vous mentionnez le mot beatnik et Béa, hein, béatitude.
Oui, on en parle de béatitude justement.
Oui, parce que c'est quand même l'auteur Jack Kerouac qui a un peu, pas inventé, mais en tout cas, on lui a attribué le mot beatnik.
Oui.
Et lui, il était vraiment un adepte de la béatitude.
Et Jack Kerouac est au cœur du spectacle.
Ben, j'imagine,
oui.
Parce que vraiment, c'est le père d'eux. Et vous reconnaissez Kerouac, voilà.
Oui, Jack Kerouac. Il y a des projections où on le voit, entre autres.
Ah, oui.
Alors, Monique, c'est bien agréable que vous soyez là. Il y a Yvan Deslauriers qui va être là un petit peu plus tard pour sa chronique. Il
oui.
va nous raconter l'histoire de deux arbitres malentendants, gérants de matchs dans plusieurs sports. Et vous, Monique, aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez rendre hommage à la musique, mais vous allez nous parler de gens un peu particuliers qui n'aiment pas la musique, je ne comprends pas.
Exactement. vraiment, pouvez-vous croire? Alors, c'est la professeure Catherine Loveday qui nous explique les raisons pour lesquelles certaines personnes n'aiment pas la musique. Ça serait quelque chose dans leur cerveau. Bon, c'est étonnant pour nous, mais qui ne pouvons vivre sans elle. Mais
oui.
Bon, voilà. Et par hasard, Hélène, une brève sur le fond musical qui peut-être est supportable, et aussi une nouvelle de U2M que j'ai repérée hier, qui a comme titre « La musique ne nous rendrait pas plus empathique ». Alors, on a ici un trio.
Oui. Alors, le thème « Musique » avec Monique, ça rime en plus.
Ben
merci,
oui,
Monique. On se retrouve un peu plus tard. Et puis, qu'est-ce qu'il y aura aussi au menu? Le retour de Dominique Tremblay à sa chronique Parasport. Dominique, qui est nostalgique, qui va faire un retour lui-même en 2024 en nous parlant de ses meilleurs moments en lien avec les Jeux paralympiques de Paris. Lui qui était sur place, le chanceux, va aussi nous parler des Jeux parapanaméricains de Toronto qui, il y a 10 ans, en 2015, donc, se tenaient ces Jeux-là. Et il va nous parler également des championnats du monde de para-hockey féminin. Et on aura aussi l'actualité internationale couverte par François Larochelle, notre chroniqueur, ancien diplomate canadien, qui sera de retour, lui aussi, pour une mise à jour sur les grands dossiers internationaux des derniers mois. Donc, il va nous parler de la situation à Gaza et de la guerre Russie-Ukraine. Parlant musique, nous, on aime la musique et on aime les bonnes chansons. En voici une, c'est « Fleurs » par Vanille.
Thank you.
Vanille, la chanteuse, le titre Fleur.
On apprenait hier la mort de Guy Rocher, 1924-2025, un architecte du Québec moderne. C'est le titre du devoir d'aujourd'hui, éducation, laïcité, démocratie, droit. Rien de ce qui concernait le Québec moderne n'était étranger à Guy Rocher. Il a vécu un siècle et ce siècle a vécu par lui. Il n'était pas seulement de son époque, il a marqué son temps et il l'a incarné longtemps. Guy Rocher, qui vient de mourir à l'âge très vénérable de 101 ans, a passé sa longue et fructueuse vie à étudier et à stimuler la transformation de sa société en mutation, le grand brassage de sa modernisation. Autre titre, cette fois, on s'en va dans les cantons de l'Est. Triste histoire qui s'est déroulée en 2019. Fillette de Granby, tout le monde l'a échappé. Tout le monde a échappé cet enfant-là dans le système, a déclaré la coroner Jeanne Kamel en conférence de presse mercredi. Après avoir conclu son investigation sur l'horrible mort de celle qui a été surnommée la fillette de Granby. Dans son rapport déposé le jour même, la coroner a relevé que l'enfant elle-même avait souvent dénoncé les coups, les mauvais traitements et la privation de nourriture dont elle était victime. De multiples signalements avaient aussi été faits par l'école en son nom. Mais l'absence de coordination entre les services scolaires, la protection de la jeunesse et la police a laissé des trous dans le filet de sécurité, censé protéger la fillette de 7 ans, poursuit Maître Kamel dans le rapport rendu 6 ans après sa mort, survenu le 30 avril 2019. Le travail en silo doit cesser et les intervenants doivent se parler, a souligné la coroner qui dit avoir signé là l'une des enquêtes les plus difficiles de sa carrière. Le TIFF souffle ses 50 bougies. On parle du Festival de cinéma, Festival international du film de Toronto. Malgré la compétition de festivals concurrents, l'événement torontois demeure incontournable. Le festival se déroule à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 14 septembre. À signaler que la présence québécoise est très marquée cette année. Déjà sortie au Québec, Amour Apocalypse d'Anne Aymon aura les honneurs de la clôture du TIFF. D'ici là, Folichonnerie d'Éric K. Bouliane, Mille secrets, mille dangers de Philippe Falardeau, Outstanding, Seul au front de Mélanie Charbonneau et Gagne ton ciel de Mathieu Denis seront présentés. À la une du Journal de Montréal, un grand champion, Félix atteint les demi-finales de l'US Open. Rien ne l'arrête et on en est tellement fiers, évidemment. Grâce à une bataille intense et forte en rebondissement de 4h10, il s'est offert une place parmi les quatre derniers aux internationaux des États-Unis où se trouvaient déjà l'Espagnol Carlos Alcaraz et le Serbe Novak Djokovic. Félix, lui, était en attente du gagnant du match d'hier soir de quart de finale entre les Italiens Jannik Sinner, intraitable numéro un mondial, et Lorenzo Musetti, dixième tête de série. C'est Jannik Sinner qui l'a emporté. Difficile de se retrouver en meilleure compagnie, même si le défi qui l'attend maintenant, demain soir, risque d'être sans précédent. Et je termine avec la une de la presse plus. Idée noire, conseil mortel. En période de détresse, devrait-on chercher de l'aide auprès de robots conversationnels? La presse leur a fait passer le test et ça fait peur. Il a été facile de se faire proposer des façons détaillées de se donner la mort. Des experts sonnent l'alarme. On parle évidemment de Guy Rocher. Le sociologue a marqué l'histoire du Québec, un phare dans la cité, écrit Paul Journet. Le Québec moderne perd un de ses bâtisseurs, selon Hélène David. Et on voit Félix Auger-Aliassime qui passe en demi-finale. Il sera en bonne compagnie dans le Carré d'As.
Soleil dans ma vie, un ciel qui se veut, je crois, pour moi, tout bleu. Mais parfois ma vie devient folle et sans répit, me laissant croire qu'il fait noir pour mon cœur et mes pensées et pour mon humanité. J'aime le soleil dans tes cheveux, j'aime j'entends ton rire dans mes oreilles. T'es le ciel pour le soleil. Même si je veux tout l'amour qu'on puisse avoir à deux, peur encore de rêver. Comment faire pour t'aimer sans me perdre, sans me briser? Me briser. C'est sûr que je veux me sentir libre d'exister, comme un jour qui s'éveille, comme un arbre au soleil. Vivre, exister en été, en été. J'aime le soleil dans tes cheveux, j'aime ta bouche et tes yeux. J'entends ton rire dans mes oreilles. T'es le ciel pour le soleil. J'aime ta bouche et tes yeux. J'aime le soleil dans tes cheveux. J'entends ton rire dans mes oreilles. T'es le ciel pour le soleil. T'as la douceur d'un matin de printemps qui s'éveille sur la ville. Prendre un café avec toi, n'importe quoi, tant que tu sois. De la douceur d'un matin de printemps qui s'éveille sur la ville. Prendre un café avec toi, n'importe quoi, tant que tu sois. Et mon éternité à moi. Et j'aime le soleil dans tes cheveux, j'aime ta bouche et tes yeux. J'entends ton rire dans mes oreilles, t'es le ciel pour le soleil. J'aime ta bouche et tes yeux, j'aime le soleil dans tes cheveux. J'entends ton rire dans mes oreilles, t'es le ciel pour le soleil. J'aime ta bouche et tes yeux, j'aime le soleil dans tes cheveux. J'entends ton rire dans mes oreilles, t'es le ciel pour le soleil. Moi, ce veut un ciel tout bleu.
Un ciel pour le soleil, une chanson de Charles Dubé.
Yvan Deslauriers est au bout du fil. Bonjour, Yvan.
Ben oui, je suis là. Bonjour, Hélène. Comment ça va?
Ben ça va, et vous?
Ça va très bien.
Oui, ça fait longtemps. Bien.
Oui, c'est comme, il y a eu un été entre ça.
Et vous étiez en Gaspésie la semaine dernière, donc vous avez manqué la rentrée.
Oui, oui, j'ai manqué ça.
Eh oui, mais on se reprend ce matin. Vous avez choisi un texte publié dans la presse le 1er septembre sous la plume d'Éric Martel.
Exactement, c'est un texte qui a été dans la presse, le 1er septembre. Et ça parle d'arbitres qui n'entendent pas à rire. C'est le titre que M. Martel a mis sur son article. C'est des officiels malentendants qui, imaginez, arbitrer au baseball, au softball, ça s'en sent, c'est pas si pire. Mais au hockey et au football, ça, c'est quand même deux autres sports vraiment différents. Maîtriser quatre sports constitue déjà un exploit. Maintenant, on va ajouter une couche de difficulté, le faire en tant que personne sourde.
Inimaginable.
Oui, c'est assez spécial, hein? C'est le défi que relève Daniel Lafantaisie depuis une trentaine d'années. Éric Martel, le journaliste de la presse, il dit « On était curieux de voir Daniel Lafantaisie en action. Alors, on l'observe donc étroitement derrière le marbre à son poste lors des championnats de l'Est du Québec » de l'Est du Canada féminin des moins de 17 ans de softball cet été. Constat, à l'exception de ses appels et qu'il crie peut-être un peu moins fort que les autres officiels, sa condition n'influence en aucun cas le déroulement du match. Peu importe le sport, pour exceller, Daniel doit demeurer attentif, nous expliquera-t-il. Son sens de l'observation, c'est tout ce qui lui permet de garder le fil du match. Il lui arrive, par exemple, de manquer des fausses balles parce qu'il n'était peut-être pas attentif, il regardait dans les estrades ou ailleurs. Au hockey, il dit, si la rondelle frappe le poteau, depuis plusieurs années, quand une rondelle frappe le poteau, on entend un bruit de métal très fort. Alors lui, il l'entend aussi,
ah.
Probablement qu'il est... probablement qu'il est influencé par l'onde du son, probablement.
Ouais.
Détail, celui qui est devenu sourd après avoir été atteint d'une méningite à la naissance. Mais il dit c'est plus compliqué si la rondelle sort de la glace en frappant la baie vitrée ou en déviant sur un bâton. Il faut absolument que je la voie parce que je n'entends pas la réaction des joueurs. Si un joueur a des questions, il se dirige vers l'autre officiel. Sinon, Daniel lit sur les lèvres, ce qui lui permet de communiquer facilement avec ses collègues. Et il dit, ça fait une trentaine d'années que j'arbitre, et des malentendus, il n'y en a presque jamais eu. Ça n'arrive que lorsque mon collègue a une trop grosse moustache ou une barbe, parce que là, évidemment, il ne peut pas lire sur les lèvres aussi facilement. Ma surdité ne m'affecte pas. Si je ne suis pas devenu arbitre professionnel, c'est à cause de ça, rit-il en pointant son ventre rebondi. On bombardera Daniel de questions sur sa pratique pour connaître les défis d'un arbitre malentendant, jusqu'au moment où l'on comprend. Le réel enjeu, ce n'est pas les oreilles des arbitres, il se trouve plutôt dans les yeux des athlètes et des parents. Parce que pendant que Daniel arbitre, le photographe de la presse, Charles-William Pelletier, concentre son objectif sur lui. Curieux, le père d'une joueuse le questionne. Bon joueur, Charles-William lui explique les détails de notre reportage sur les arbitres malentendants. Dès lors, le parent en question informe l'entraîneur de l'équipe de la surdité de Daniel et il passe ensuite le mot aux joueuses. Ce scénario se répète souvent. Les équipes sont surprises de voir que je suis une personne sourde. Ils pensent que je ne ferai pas le travail. Et par conséquent, les joueurs l'insultent, la plupart du temps en raison de sa surdité. « J'aime ça », lance notre bonhomme avec un large sourire. « Je ne perds pas de temps avec eux, je les sors du match. De toute façon, c'est ça le règlement. » Des gradins, les parents lui crient toutes sortes de bêtises qu'il n'entend pas.
C'est vrai.
Il le menace même parfois. Ironiquement, on le traite souvent d'aveugle. Une fois, un père m'a dit qu'il me verrait dehors de l'aréna. Il était vraiment fâché, raconte-t-il. Alors, Daniel a pris la chose au sérieux et il a composé le 911. Quand la police est arrivée, je lui ai expliqué la situation. Une heure après, à ma sortie de l'aréna, une autopatrouille m'attendait. On m'a suivi une partie de la route pour s'assurer que j'étais en sécurité. Qui, nous dit-il, qui a été même surpris du dénouement de la situation. Daniel raconte d'ailleurs que ses attaques avec légèreté, dans le rire. Mais il avoue, parfois, elle perd sa carapace. Je suis une personne sourde, alors que toi, tu as la chance d'être entendant. Pourquoi tu m'insulterais en plus?
Mais oui.
J'ai le droit d'être là autant que toi, réplique-t-il à ses détracteurs. Au moins, Daniel peut compter sur le respect des gestionnaires des ligues dans lesquelles il officie. Un autre arbitre malentendant, qui s'appelle Michel Morancy, ne jouit pas du même luxe. Résident de Québec, il peine à trouver du boulot. Les organisateurs ne m'invitent pas, et quand je leur propose mon aide, ils prétextent qu'ils n'ont pas besoin de moi, dénonce celui que tout le monde surnomme Mimo. Pourtant, Michel a obtenu plusieurs certifications comme arbitre à Montréal. Comme elles ne sont pas exigées à Québec, il part avec une longueur d'avance sur les autres, croit-il. Les joueurs pensent souvent que je ne connais pas les règlements, que je ne comprends rien au match. Non seulement je comprends tout, mais probablement mieux que d'autres arbitres. C'est très frustrant. Le baseball et le softball sont sa vie. Il est le fils de Richard Morancy. Richard Morancy, c'est l'ex-vice-président des Expos dans les années 1990. Mimo baigne dans le milieu depuis l'enfance. Il a partagé des moments avec Vladimir Guerrero et a même déjà lancé la balle avec son fils, aujourd'hui une vedette des Blue Jays de Toronto. C'est d'ailleurs son père qui l'a poussé à arbitrer. Lorsque Mimo était âgé de 13 ans, la famille reçoit un appel. Un match de niveau 2A de joueurs de 21 ans va bientôt commencer et il manque un officiel. Mimo nous dit « Ma mère était nerveuse. Elle me trouvait trop jeune. Mon père a insisté pour que j'y aille. J'ai foncé. » Mimo est sourd depuis la naissance. Sur place, il s'installe au deuxième but. Une chicane éclate entre deux entraîneurs. L'arbitre Omar avait 18 ans. Il était stressé au point, je cite l'article, au point de faire dans ses culottes. J'ai dû prendre les choses en main. J'ai sorti les deux entraîneurs du match. Puis, il faut se souvenir que Mimo, à ce moment-là, avait 13 ans. Fait qu'il n'était pas vieux, là. Depuis, il n'a jamais arrêté. Il est même devenu le premier malentendant à arbitrer au championnat canadien de balle rapide. C'est vraiment un excellent arbitre, commente l'arbitre en chef adjoint Jean-Michel Laliberté. Même si M. Laliberté ne parle pas la langue des signes, il communique facilement avec Mimo, qui lit sur les lèvres. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, on s'est habitué. Ça reste un beau défi. Il faut que je prenne le temps d'articuler pour m'assurer qu'il puisse bien comprendre. Si certains organisateurs hésitent à l'embaucher, c'est parce qu'ils craignent d'être incapables de communiquer avec lui, croit-il. Ça peut faire peur au début, mais au final, je ne m'empêche pas de parler à Mimo ou à Daniel. Je leur explique les consignes comme à n'importe quel autre arbitre. Des personnes aussi formidables et enthousiastes que ça, c'est rare. Tous les passionnés comme Mimo et Daniel devraient bénéficier de mêmes chances que les autres. Ce n'est pas plus compliqué que ça, conclut Jean-Michel Laliberté. Après avoir prononcé ces mots, il se tourne. Mimo se rue vers lui pour lui donner un gros câlin. Voilà bien une autre preuve que l'amour du sport se propage encore plus facilement que de simples ondes dans les airs. Et en terminant, le reportage que je viens de vous lire a constitué un défi technique puisque le journaliste ignore totalement la langue des signes. Alors, sa réalisation aurait été impossible sans l'apport de l'interprète bénévole qui s'appelle France Abel. Enfant de parents malentendants, France a appris cette langue avant le français. Daniel et Mimo sont des connaissances. Toute la communauté des sourds, on est comme une grande famille, résume-t-elle. D'ailleurs, Daniel et Mimo ont pu suivre leur récente certification grâce à son aide. Elle a passé les journées de cours avec eux, traduisant chacun des enseignements pour leur permettre de progresser.
Ah, merci beaucoup, Yvan. Je sais que vous devez nous quitter. Excellent choix de texte et on peut en conclure que n'est pas sourd celui qu'on pense. Hein? Vive l'ouverture d'esprit.
Exactement.
À la prochaine.
Oui. Merci. Bye.
Écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
impossible de ne pas aimer la musique quand on écoute cet air de Bach par des voix d'enfants, n'est-ce pas, Monique?
Oh, c'est tellement beau, Hélène. Merci de ce choix. C'est vraiment... Ça nous va droit au cœur.
Oui, hein? On était au paradis, je crois.
Oui, presque.
Alors, Monique, imaginez-vous donc, en tout cas, c'est vous là, qui avez choisi cet article-là qui va en provoquer certains, mais paraît-il qu'il y a des personnes qui n'aiment pas la musique.
Exactement. Alors, le titre, c'est « Certaines personnes n'aiment pas la musique. La raison se trouve dans leur cerveau ». Et c'est un texte rédigé par la professeure en neuropsychologie Catherine Loveday de l'Université de Westminster. Et ça a été publié dans La Conversation le 29 août dernier. Alors, lorsque la professeure Catherine Loveday demande à une salle d'étudiants comment ils se sentiraient s'ils ne pouvaient plus jamais écouter de la musique, ben la plupart sont consternés. Hein? On le serait, à moins. Beaucoup ont écouté leur musique, d'ailleurs, jusqu'à l'instant où le cours a commencé. Mais invariablement, un ou deux admettent timidement que leur vie ne changerait pas du tout si la musique n'existait pas.
Ah,
ouais.
C'est
et
grave.
Et Hélène, les psychologues appellent cela l'anédonie musicale. Alors, je vous appelle anédonie, A-N-H-E, accent aigu, D-O-N-I-E. Alors, ça, c'est l'absence de plaisir à écouter de la musique. Et il y a un nouvel article publié par des neuroscientifiques espagnols et canadiens suggère qu'elle serait causée par un problème de communication entre différentes parties du cerveau. Pour beaucoup d'entre nous, l'apathie envers la musique semble incompréhensible. Je pense qu'on l'a exprimé, vous
oui.
et moi, depuis que j'ai annoncé cette chronique. Alors pourtant, il y a 5 à 10% de la population, pour 10 à 5% de la population, pardon, c'est la norme. Madame Loveday le constate souvent dans ses propres recherches et pratiques auprès de personnes souffrant de perte de mémoire à qui elle demande de choisir leur chanson préférée afin d'accéder à des souvenirs importants. Elle a toujours été fascinée par le fait que certaines personnes la regardent d'un air perplexe et lui disent « la musique ne m'a jamais intéressée ». Cela contraste fortement avec la majorité des gens qui adorent parler de leur premier disque ou de la chanson qui a été jouée à leur mariage ou à tout autre événement. Des études récentes montrent de grandes différences dans l'intensité des réactions émotionnelles des gens à la musique. Environ 25 % de la population est hyper hédonique, c'est-à-dire qu'elle éprouve un besoin presque obsessionnel d'écouter intensément et fréquemment de la musique. La recherche dans ce domaine utilise généralement le questionnaire de récompense musicale de Barcelone, le BMRQ, qui interroge les personnes sur l'importance de la musique dans leur vie quotidienne. Par exemple, une question posée à quelle fréquence elles écoutent des disques, si elles fredonnent ou s'il y a des chansons qui leur donnent des frissons. J'ai été vérifier, Hélène, le questionnaire de récompense musicale de Barcelone. Je ne l'ai trouvé qu'en anglais.
Ah.
Alors, j'ai pas accédé en fait au site pour cette raison. Les personnes obtenant un score faible sont classées comme souffrant d'anédonie musicale et de nombreux chercheurs vérifient ce diagnostic en laboratoire en mesurant leur rythme cardiaque, leur transpiration et leur respiration pendant qu'ils écoutent de la musique. Pour la plupart d'entre nous, ben, ces marqueurs physiologiques changent radicalement pendant les chansons émouvantes. Mais chez les personnes souffrant d'anédonie musicale, il n'y a souvent aucun effet physiologique. Une théorie est que le fait de moins apprécier la musique pourrait refléter une anédonie plus générale, c'est-à-dire une absence de plaisir pour quoi que ce soit. Souvent, cela est lié à des perturbations des circuits de la récompense du cerveau dans des zones telles que le noyau acombien, le cortex orbitofrontal et l'insula. Il s'agit d'une caractéristique courante de la dépression qui, comme d'autres troubles de l'humeur, peut être corrélée avec une absence de réponse à la musique. Or, cela n'explique pas l'anédonie musicale spécifique où les personnes apprécient pleinement d'autres sources de plaisir telles que la nourriture, les relations sociales et les films, mais restent indifférentes à la musique. Une autre possibilité, c'est que les personnes s'intéressent peu à la musique, ne la comprennent pas du tout. Peut-être en raison de difficultés à percevoir les mélodies et les harmonies. Pour tester cette hypothèse, on peut nous intéresser aux personnes atteintes d'amusia. C'est un trouble de la perception musicale qui affecte la capacité à reconnaître des mélodies familières ou à détecter des fausses notes. Cependant, certaines personnes atteintes de ce trouble ont un amour extrême et obsessionnel pour la musique. Quoi qu'il en soit, d'autres recherches montrent que les personnes souffrant d'anhédonie musicale ont souvent une perception musicale normale, sans difficulté à reconnaître les chansons ou à distinguer les accords, qu'ils soient majeurs ou mineurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, le nouvel article propose une analyse approfondie des recherches menées jusqu'ici. Les auteurs expliquent que chez les personnes souffrant d'anhédonie musicale, les réseaux cérébraux de la perception musicale et de la récompense sont intacts, mais la communication entre eux est fortement perturbée. Autrement dit, il existe peu ou pas d'échange entre les régions auditives du cerveau et le centre de la récompense.
Alors Monique, c'est pas un choix d'aimer ou pas aimer la musique, là. Ça relève d'un trouble.
Ben oui, c'est ça. Il y a une rupture, en fait. Il devrait y avoir connexion entre les régions auditives du cerveau et le centre de la récompense, et ça ne se fait pas. Alors, les personnes qui ont des réactions typiques à la musique présentent une activité importante dans cette voie qui est plus élevée que la musique agréable pour les sons neutres. Une étude réalisée en 2018 a montré qu'il est possible d'augmenter le plaisir procuré par la musique en stimulant artificiellement ces voies de communication, donc entre les régions auditives du cerveau et le centre de la récompense, en stimulant donc artificiellement ces voies de communication à l'aide de stimulation magnétique. Cette nouvelle analyse pourrait aider les scientifiques à mieux comprendre certains troubles cliniques où le plaisir quotidien paraisse diminuer ou au contraire exacerbé, comme les troubles alimentaires, l'hypersexualité ou la dépendance au jeu. Donc, c'est multifacettaire, si on peut dire, c'est pas juste la musique. Ces résultats remettent également en question l'idée répandue selon laquelle tout le monde aime la musique. La plupart des gens, oui, l'apprécient, mais pas tous. Et cette variation s'explique par des différences dans le câblage du cerveau. Parfois, cela fait suite à une lésion cérébrale, mais le plus souvent, les personnes naissent ainsi. Il y a une étude réalisée en mars 2025 qui a trouvé des preuves aussi d'un lien génétique. La musique est partout. Dans les magasins, les salles de sport, les restaurants, les établissements de santé. Et elle peut avoir un pouvoir incroyable, on le sait, mais peut-être devrions-nous résister à la tentation de la considérer comme une panacée et accepter que, pour certains, le silence est lui aussi sa valeur.
Ah, le silence, on aime ça aussi.
Ben oui.
Il y en a de moins en moins.
Exactement.
Alors, allons-y avec une chanson, puis on se retrouve avec le même thème. La musique ne nous rendrait pas plus empathiques, paraît-il.
Quittons dans ce monde insolite le bruit des belles mécaniques qui construisent quoi.
France Gall. Musique.
Beau souvenir, écrit par Michel Berger. Alors, Monique, hey, j'arrête pas de dire alors ce matin, Mathieu. C'est mon tic de ce jeudi 4 septembre. Je vais essayer.
On vous
de...
le pardonne, Hélène.
OK, merci beaucoup. Monique, la musique ne nous rendrait pas plus empathiques. Merci d'être empathique envers moi.
C'est peut-être la musique, on verra. Mais parmi les lieux communs les plus répandus sur les bienfaits de la musique, Hélène, figure celui selon lequel elle nous rendrait plus empathiques. Qu'il s'agisse d'enfants jouant dans un orchestre ou d'adultes chantant dans une chorale, la pratique musicale est souvent perçue comme un vecteur naturel de développement social et émotionnel. Mais qu'est-ce que nous disent les données? Ben, c'est à cette question qu'a voulu répondre une équipe de recherche du département de psychologie de l'Université de Montréal. En scrutant la littérature existante, l'équipe a relevé des résultats contradictoires. Alors, certaines études trouvent une corrélation positive entre musique et empathie, d'autres non, et d'autres même une corrélation inverse. Les chercheurs ont donc recruté de 169 musiciens et non-musiciens adultes pour étudier s'il y a réellement un lien entre la pratique musicale en général, l'empathie et la prosocialité. Prosocialité qui est le désir d'aider quelqu'un. Hein. Les chercheurs ont voulu mesurer l'empathie, c'est-à-dire l'habileté qui permet de comprendre et d'être sensible aux états émotionnels des autres. L'étude n'a révélé aucune différence significative entre musiciens et non-musiciens quant à la majorité des mesures d'empathie et de prosocialité. Le fait d'avoir une activité également, et le fait d'avoir une activité musicale régulière ne semble pas influencer directement la propension à coopérer, à partager ou à sacrifier ses propres intérêts pour ceux des autres. Ces résultats vont donc à l'encontre de plusieurs études menées auprès d'étudiants, d'enfants, pardon, qui avaient montré les effets positifs de la musique sur les habiletés sociales. Alors, comment peut-on expliquer cette discordance? Bon, on aurait deux hypothèses. La première est liée à l'âge au début de l'activité musicale. Les analyses exploratoires indiquent que les personnes ayant commencé la musique tôt dans l'enfance obtiennent des résultats légèrement supérieurs quant à certaines mesures d'empathie, indépendamment de leur pratique actuelle. Ça donne à penser que les expériences musicales précoces pourraient jouer un rôle structurant, notamment sur le plan du développement socio-émotionnel. La deuxième hypothèse, c'est le contexte de réalisation. Beaucoup d'études portent sur des activités musicales de groupe, où la coordination, l'écoute et la régulation émotionnelle sont sollicitées. Les adultes recrutés faisaient de la musique ou chantaient probablement dans un ensemble de contextes différents. Ça nous permet de dire que la musique en général, donc dans n'importe quel contexte, ne permet pas d'améliorer l'empathie. Mais c'est possible que celle faite en groupe, plus spécifiquement, ait un effet. En d'autres termes, ce n'est peut-être pas la musique en tant que telle qui favoriserait l'empathie ou la prosocialité, mais les contextes sociaux dans lesquels elle est vécue. Donc, c'est l'effet de groupe.
Intéressant. maintenant. Ça, c'est un fond musical que je qualifierais de supportable, mais un fond musical est-il insupportable, Monique? Je serais portée à dire oui.
Oui, ben en fait, il faut préciser qu'on parle ici de l'article dit de cette soupe musicale servie dans les magasins, les bars, les hôtels, soigneusement sélectionnée pour nous faire sentir bien et éventuellement nous inciter à prolonger le moment ou à consommer. Sauf que ces boucles sonores qui tournent toute la journée sont un calvaire pour les employés. C'est ce que révèle en fait la première étude consacrée à leur effet. Les chercheurs ont suivi 68 personnes du secteur des services pendant 10 jours à différents moments de la journée. En observant que la musique finit par accaparer leurs ressources mentales, réduire leurs pensées et leurs émotions positives jusqu'à produire, selon les auteurs, je les cite, un appauvrissement cognitif qui impacte le comportement de façon défavorable. Un effet d'autant plus fort que le fond musical est en décalage avec ce que les employés auraient eu envie d'écouter. Et avec, au final, Hélène, une moindre efficacité dans leur travail.
Ah oui. Mais vous parlez du personnel, mais il y a aussi les clients, là, je pense, quand on fait notre marché à l'épicerie, dans le temps des fêtes, là, qu'on nous assomme avec des chansons de Noël, pas nécessairement les meilleures, là, avec un son, un volume vraiment trop, trop fort. Ou au restaurant, quand on nous impose de la musique.
Exactement. Et les restaurants qui sont malheureusement mal, je dirais, préparés. Mal insonorisé peut-être, ce qui fait que la musique est forte, les gens parlent plus fort, on s'entend plus, fait qu'on veut juste sortir du restaurant.
C'est une stratégie aussi, paraît-il, pour nous faire boire un peu plus d'alcool, mais on ne peut pas boire plus d'alcool quand on prend le volant. Et les gens boivent de moins en moins de toute façon. Alors, je ne sais pas si à un moment donné, ils vont prendre conscience là, que c'est plus désagréable qu'agréable, mais ça dépend, il y en a qui aiment ça. Mais moi personnellement, j'aime bien entendre mon interlocuteur ou mon interlocutrice.
Et pas nécessairement votre voisin de table.
Non.
Qui parle plus fort parce que la musique est plus forte.
À moins que le voisin soit plus intéressant que celui ou celle avec
qui
je...
Hélène.
Alors, Monique, dès quel âge les enfants sont sceptiques?
Ben, dès 4 ans, Hélène.
Ah oui?
Oui, ils exigent des preuves pour croire ce que l'on raconte et ne tire pas des conclusions hâtives. Ainsi, 122 enfants entre 4 et 7 ans, auxquels on a présenté 20 extraterrestres sur une tablette en leur précisant qu'ils avaient tous 3 yeux, ont préféré ôter les lunettes de soleil des personnages pour le vérifier. Et ils le vérifiaient d'autant plus si, au préalable, on leur avait soumis des assertions aussi peu crédibles que les hippopotames nagent dans l'espace. Donc, attention aux enfants de 4 ans, on ne peut pas leur faire passer n'importe quoi.
Non, les sceptiques seront confondus.
Exactement.
Et on termine avec une capsule, vous terminez avec une capsule linguistique.
Oui, alors est-ce qu'on fait preuve d'humanisme ou d'humanité? Je trouvais intéressant la subtilité, là.
Oui.
Le mot humanisme, ça désigne un mouvement intellectuel qui a pour objectif d'élever la dignité de l'esprit humain. On appelle également humanisme la formation de l'esprit humain par la culture littéraire. Et il faut rappeler que l'humanisme n'a rien à voir avec la philanthropie. L'humanité est un sentiment de bienveillance envers tous les êtres humains. Donc, lorsqu'on manifeste de la sympathie pour ses semblables, on fait preuve d'humanité et non pas d'humanisme.
Merci.
Une petite subtilité, mais on perd souvent ces subtilités dans notre quotidien, n'est-ce pas?
Oui, c'est bien ce rappel à l'ordre. Merci, Monique, pour tout ça, pour votre présence de ce matin. Puis, je vous souhaite une belle journée. On se retrouve, je l'espère bien, la semaine prochaine.
Ben oui, à jeudi prochain.
À jeudi. On apprend à l'instant que le designer italien Giorgio Armani, icône de la mode, est mort à l'âge de 91 ans. Entouré par ses proches, c'est ce qu'a annoncé jeudi son groupe dans un communiqué. C'est avec une immense tristesse que le groupe Armani annonce le décès de son créateur, fondateur et infatigable moteur, Giorgio Armani. Dans cette entreprise, nous nous sommes toujours sentis comme une famille. Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que nous ressentons le vide laissé par celui qui a fondé et nourri cette famille avec vision, passion et dévouement. A poursuivi le groupe, mais c'est précisément dans son esprit que nous nous engageons à protéger ce qu'il a construit et à faire avancer son entreprise en sa mémoire avec respect, responsabilité et amour. Giorgio Armani avait créé sa maison de couture à Milan en 1975. Il avait depuis toujours voulu rester indépendant, refusant d'être coté en bourse. Giorgio Armani, affaibli depuis plusieurs mois, avait été contraint de renoncer à ses défis masculins, à ses défilés masculins, à Milan, mi-juin, pour des raisons de santé. Il avait également fait l'impasse en juillet pour le défilé Armani privé à Paris. Avec Giorgio Armani, c'est une figure emblématique de la culture italienne qui disparaît. Lui qui a su transformer l'élégance en un langage universel. Son style sobre et innovant a redéfini la relation entre la mode, le cinéma et la société, laissant une empreinte indélébile dans les mœurs contemporaines, a réagi le ministre italien de la Culture. À venir, une chronique de François Larochelle et aussi Dominique Tremblay qui parle de parasport.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Incroyable. Ça serait un scénario digne de Hollywood.
Équipe, sa chambre, ça crie. Diri pense à sa blonde. C'est ce qu'il pense, elle est juste au bord des estrades. Est assise avec Vlad, à côté sur un arbre. Faut pas que je me laisse déconcentrer par ça. Trois balles de prix, ça pardonne pas. Y'a trois coureurs sur les coussins, ça tripe au marbre. Recevoir me fait un signe de peace entre les deux pads. Y'a plus de lendemain, y'a plus rien de sûr. La balle est dans mon gant. Phalange sur couture. Ça va rentrer 100 000 à l'heure au backstop. C'est ça quand je vais dérouler ma curve drop. De la hanche aux jointures. J'ai quatre coups sûrs, Jean-Vladimir Couture. J'en ai jamais voulu, Vlad Couture. Même si tu m'as battu à plate couture, Jean-Vladimir Couture. Après la game, on est allé au Cornet Pop. J't'ai vu à la restop, au bras de Pénélope. Pénélope, c'était ma veste, c'était ma blonde. C'est là que tu m'as dit une phrase, je l'ai trouvée bonne. Personne n'est à personne. À cette heure, c'est nos enfants qui jouent ensemble à balle molle. Elle joue pour les Orioles. Go les Orioles de...
Thank you. Pénélope, c'était ma best, c'était ma blonde. C'est là que tu m'as dit une phrase, je l'ai trouvée bonne. Personne n'est à personne.
Ça fait plaisir de retrouver Marc Derry. Cette chanson s'appelait Vlad de Couture.
Oui, vraiment un petit film, cette chanson, qui fait partie de l'album à paraître le 19 septembre. J'aime ça quand t'es là. Et on aime ça quand il est là. Dominique Tremblay, bonjour.
Bonjour Hélène, comment allez-vous aujourd'hui?
Ça va, et vous?
Ben, ça va quand même assez bien.
Oui.
L'école est recommencée, le travail est recommencé, on se prépare pour l'automne.
Bon, alors, l'été n'est pas fini, mais c'est vrai que l'automne arrive... quand même.
Assez rapidement,
le 22 septembre pour être plus précise. On fait un retour dans le temps. L'année passée, vous étiez à Paris pour les Jeux paralympiques de Paris et vous êtes nostalgique ce matin.
Ben oui, c'était toute une expérience de voir les Jeux paralympiques dans la ville Lumière, la capitale de la France. C'était la première fois que Paris organisait des Jeux paralympiques. C'était la troisième fois qu'ils organisaient les Jeux olympiques quelques semaines auparavant. Il y a trois moments spéciaux pour moi, pour les Jeux paralympiques. Évidemment, il y avait la cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée aux Champs-Élysées et à la place de la Concorde. C'était une cérémonie d'ouverture qui était très... c'était sobre comme... cérémonie d'ouverture. Puis pour moi, c'est ce que j'aime bien, parce que ce qu'on veut voir, c'est les athlètes qui entrent dans le stade. On est là pour les célébrer, les accueillir et leur souhaiter bonne chance. Il y avait quelques numéros de chansons avec de la danse avec des personnes handicapées. C'était vraiment très, très bien. Il y a aussi la compétition de soccer, football à 5 pour les athlètes ayant une déficience visuelle qui se déroulait au pied de la Tour Eiffel. C'était toute une expérience pour les spectateurs. Durant les Jeux olympiques, c'était le volleyball de plage qui était au pied de la Tour Eiffel. C'était vraiment quelque chose. Mais pour les Jeux paralympiques, ce que je trouve un petit peu ironique, c'est que les athlètes ne pouvaient pas vraiment voir la beauté du site puisqu'ils avaient une déficience visuelle, et quand ils jouent au soccer à 5, ils portent tous des masques pour pas qu'il y ait de désavantages entre ceux qui sont complètement aveugles et ceux qui ont seulement une déficience visuelle. Donc, je trouve ça un peu ironique, mais c'était quand même tout qu'un un site de compétition. Et évidemment, Paris est rempli de sites iconiques. Et plusieurs compétitions se déroulaient dans ces sites-là. Alors, c'était quelque chose à voir. Et enfin, je veux terminer avec, évidemment, je travaillais pour le boccia aux Jeux paralympiques. Donc, je veux revenir sur cette compétition-là. En finale des femmes BC1, Aurélie Auclair de la France a gagné la médaille d'or dans sa catégorie. C'était la première fois que la France gagnait une médaille paralympique. Au début de la compétition, Aurélie n'était même pas une favorite. Elle est sortie nulle part pour se rendre jusqu'en finale et gagner la médaille devant ses spectateurs, les gens qui la connaissaient. Dans l'aréna, c'était vraiment quelque chose d'entendre la foule. Et elle a été vraiment la vedette de la cérémonie de clôture. Elle a porté le drapeau de la France lors de la cérémonie et elle a éteint la flamme des Jeux paralympiques de Paris. Ça a été quelque chose et à partir de maintenant, tout le monde en France connaît Aurélie Auclair. Et le sport du boccia, suite aux performances d'Aurélie Rivard a augmenté de 22 % la participation de personnes ayant un handicap plus sévère. Donc, 22 % d'augmentation de participation, c'est quand même énorme et un bel accomplissement pour les Français.
Des jeux inoubliables, quoi.
Oui, c'est ça.
Il y a 10 ans, donc ça se passait en 2015, se tenaient les Jeux para-panaméricains.
Oui, c'est ça. C'était la première fois que Toronto organisait ces Jeux-là. Le Canada, il y avait 126 athlètes qui participaient à cette compétition-là. Plusieurs ont commencé leur carrière sur la scène internationale lors de ces Jeux para-panaméricains. Et 10 ans plus tard, on en a revu plusieurs qui étaient à Paris. On parle de 38 athlètes qui ont participé aux Jeux de Toronto qui étaient à Paris en 2024. On parle de Alison Levine au Boccia, mais aussi de Priscilla Gagné qui avait remporté une médaille à Toronto en judo et qui a aussi gagné une médaille lors des Jeux de Tokyo, une médaille d'argent. Donc, c'est ça vraiment qui a lancé la carrière de plusieurs athlètes paralympiques. Et en plus, ce que je voudrais noter, c'est que, en gros, c'est à partir de ce moment-là que vraiment, là, on a tourné, on a changé notre perception des sports paralympiques. En tout cas, du moins, c'est ce que j'ai ressenti. J'y étais là à ces Jeux-là pour participer à aider à organiser des compétitions et ça a vraiment été un point tournant et depuis ce temps-là, les Jeux paralympiques ou les sports paralympiques continuent à être plus parlés, on les voit plus à la télé, alors c'est quand même quelque chose de très bien. Je voulais souligner ça, c'est la dernière fois que Toronto avait organisé des sports, une compétition pour des personnes handicapées, on remonte aux Jeux pour les personnes handicapées de 1976, qui on appelle maintenant les Jeux paralympiques de 1976, étaient à Toronto. Et je vous rappelle que Montréal, évidemment, avait accueilli les Jeux olympiques à
Montréal.
1976 à Montréal.
Oui, oui. Et Dominique, vous terminez avec les championnats du monde de para-hockey féminin.
Oui, c'était la première édition de ces championnats du monde. Il y avait eu plusieurs compétition là, les 3 dernières années avant pour les femmes en para-hockey. Il y avait 6 équipes lors de ce premier championnat du monde. Le Canada a gagné la médaille d'argent. Les filles se sont inclinées 7-1 contre les États-Unis. Mais vraiment, cette compétition-là va mener à ce que le para-hockey féminin fasse ses débuts lors des Jeux paralympiques de 2030. Ça devrait être toute une expérience. Plusieurs athlètes pratiquent leur sport depuis longtemps avec un rêve de participer à des Jeux paralympiques en para-hockey féminin. Je pense que ce premier championnat du monde augure très bien pour le futur. Il y avait une équipe donc du Canada, des États-Unis, il y avait aussi la Norvège, la Grande-Bretagne et l'Australie lors de cette compétition. Et il y avait une 6e équipe qui venait une équipe du monde. Là, il y avait plusieurs athlètes de différents pays qui formaient cette équipe-là. Donc, ça devrait mener à une participation aux Jeux paralympiques de 2030. Et je souhaite bonne chance à l'équipe canadienne pour se rendre jusque-là.
Dominique, vous avez fait toute qu'une chronique.
Je vous remercie.
On se retrouve la semaine prochaine.
Au revoir.
Les bombes tombent comme la pluie sur des villes qu'on oublie. Personne ne crie, personne ne rit. Le monde tourne et puis tant pis. Les bombes chantent un air ancien, une mélodie qu'on connaît bien. Personne ne bouge, personne fait rien. Le monde répète son refrain. Y'a des éclats dans les nuages, un peu de feu. les bombes tombent sur nos mémoires. Ça fait des trous pas beaux à voir. À faire semblant de pas savoir, on verra ce que dit l'histoire. Elle est rouge maintenant la terre, comme le ciel, comme les enfers. Des corps sans vie sur nos colères, on dira je n'ai rien pu faire. Y'a des éclats dans les nuages, un peu de feu, un peu d'orage. Normal, banal. Y'a des éclats dans les nuages, ferme les yeux, tourne la page. Normal, banal. Et si demain c'était ma rue, tous les endroits que j'ai connus, ma ville enfouie sous les décombres, soleil de cendre et brasier d'ombre. Si demain c'était ma famille, mes frères, mes sœurs et mes amis, est-ce que là-bas au bout du monde on chantera dessus nos bombes? Y'a des éclats dans les nuages, un peu de feu, un peu d'orage. Normal, banal. Y'a des éclats dans les nuages, ferme les yeux, tourne la page. Normal, banal, banal.
Barbara Pravi, des éclats dans les nuages.
Chronique Actualité internationale en compagnie de François Larochelle, qu'on retrouve avec grand plaisir. Bonjour, M. Larochelle.
Bonjour, Mme Denis.
Ancien diplomate canadien. Et puis aujourd'hui, vous allez faire une sorte de mise à jour sur les grands dossiers internationaux des derniers mois. Évidemment, il y a la situation à Gaza et la guerre Russie-Ukraine, deux conflits qui continuent de faire des victimes et des destructions.
Oui, en effet, commençons par la situation là, à Gaza. Au cours de l'été, la situation des Gazaouis ne s'est pas améliorée, bien au contraire. La dégradation de leur situation est maintenant tout simplement hallucinante. Les experts n'hésitent plus à parler de génocide. Malgré tous les efforts des autorités israéliennes pour la cacher, elle s'affiche quotidiennement au fût et au su de nos dirigeants et du public. Un organisme des Nations unies a confirmé qu'une famine se déroulait à Gaza. Bien qu'en partie reprise depuis quelques semaines, l'aide alimentaire internationale, notamment par des parachutages, est clairement insuffisante. La mise à l'écart des organisations non gouvernementales et des agences des Nations unies dans la distribution de cette aide par une obscure fondation créée et contrôlée par Israël a produit des effets catastrophiques, des distributions chaotiques et sanglantes, car on meurt aussi à Gaza en essayant simplement d'obtenir un peu de nourriture. Les victimes de la malnutrition se trouvent chez les plus faibles, c'est-à-dire les enfants, les malades et les personnes âgées. Cette catastrophe humanitaire ne se serait jamais produite si le gouvernement israélien n'avait pas décidé d'user de la faim comme d'une arme malgré ses dénégations. La nouvelle offensive militaire de l'État hébreu pour prendre la ville de Gaza pourrait rendre cette famine encore plus dévastatrice. On compte plus de 63 000 morts à Gaza, en grande majorité des civils, femmes et enfants. Ce triste bilan ne cesse de grandir tous les jours. Le gouvernement Netanyahou veut, semble-t-il, rendre Gaza invivable et pousser ses habitants à l'exil. Et maintenant, il y a ce plan surréaliste américano-israélien pour qu'une fois vidé de ses habitants, Gaza devienne un parc touristico-technologique. C'est de la folie furieuse.
Oui. Et ceci dit, le gouvernement de Netanyahou demeure sourd aux appels de la communauté internationale et même de sa propre population.
Netanyahou veut essentiellement garder le pouvoir et retarder les procès pour corruption contre lui. Pour cela, il a besoin de l'appui des partis d'extrême droite qui veulent que la guerre continue, avec le plein soutien, faut-il le dire, de l'administration Trump jusqu'à maintenant.
En parallèle, Israël accélère la colonisation de la Cisjordanie.
Les colons protégés par les soldats israéliens s'en prennent aux Palestiniens en Cisjordanie, brûlent leurs fermes et tuent en toute impunité. un vaste projet pour la construction de plus de 3000 appartements visant à compliquer la création d'un éventuel État palestinien vient d'ailleurs d'être approuvé par le gouvernement israélien. Les soutiens politiques de Netanyahou, et qui sait sans doute lui-même, rêvent d'annexer la Jordanie d'ailleurs.
Donc, plus d'espoir de voir cette tragédie se terminer bientôt?
Non. À moins d'un retournement imprévu ou que les pressions de la majorité d'Israéliens qui veulent que cette guerre se termine et que les otages soient libérés finissent par avoir un effet sur le gouvernement israélien. Mais pour l'instant, c'est peu probable. Je voudrais quand même souligner un élément positif. C'est que depuis l'arrivée du premier ministre Carney, le Canada affiche des positions beaucoup plus fortes que celles de son prédécesseur vis-à-vis d'Israël. La reconnaissance de la Palestine comme un État, prévue officiellement en septembre aux Nations unies par une vingtaine de pays, dont le Canada, est une décision courageuse et il faut espérer qu'elle va se concrétiser.
Bien sûr. Concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, maintenant, c'est la visite de Poutine en Alaska pour rencontrer Trump qui a fait les manchettes.
Oui, en fait, c'était un gros show de boucan, comme on dit. Ce sommet du 15 août s'est achevé sans perspective concrète de la fin de la guerre, ni même d'un cessez-le-feu en Ukraine. Il a, comme prévu, tourné à l'avantage du président russe qui a été réhabilité sur la scène mondiale par cette opération. Pourtant recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, M. Poutine a été reçu avec tous les honneurs réservés à un honorable chef de grande puissance. Pour exprimer sa reconnaissance, il a même repris à son compte un grief cher au cœur de Trump que l'élection présidentielle de 2020 avait été frauduleuse. Poutine a même convaincu Trump que les machines électorales étaient truquées. Ce dernier veut d'ailleurs passer désormais une loi pour les interdire.
Excusez.
Pour le reste, rien de nouveau. M. Poutine s'est contenté de réitérer les causes profondes de son conflit avec l'Ukraine. Pour sa part, Trump n'a pas tari d'éloges sur son ami Vladimir. Il s'est limité à évoquer un éventuel sommet trilatéral avec les présidents russes et ukrainiens. Quant au sommet bilatéral entre Zelensky et Poutine, censé le précéder, on n'en parle déjà plus. Selon Washington, la Russie aurait accepté cependant que l'Ukraine puisse bénéficier de garanties de sécurité en dehors de l'OTAN. Mais Moscou la rend conditionnelle à ses propres intérêts. Et en fait, depuis le sommet, les bombardements russes par drones et missiles sur l'Ukraine se sont intensifiés. Les paramètres essentiels de la crise ukrainienne demeurent et personne ne veut faire la guerre à la Russie qui joue de la menace nucléaire.
En terminant, vous voulez souligner un moment surréaliste. Bien, c'est surréaliste depuis le début, oui. Ce qu'on entend. mais un moment particulier des derniers mois en politique étrangère?
Oui, comme vous le dites, il y a effectivement eu beaucoup de moments surréalistes au cours des derniers mois. Mais celui qui m'a vraiment frappé, moi, c'est quand Netanyahou, qui était en visite à Washington, a remis à Trump une lettre de soutien du gouvernement israélien pour que ce dernier reçoive le prix Nobel de la paix. Venant d'un chef de gouvernement soupçonné de crimes de guerre et contre lequel s'applique un mandat d'arrestation de la Cour pénale internationale, c'était totalement absurde. Cette séance de flagornerie a malheureusement fonctionné, semble-t-il, car Netanyahou a depuis obtenu une carte blanche complète pour agir dans la région.
Oui, la mâchoire nous tombe.
Tout à fait.
Et ça continue.
Voilà.
Merci beaucoup, François Larochelle, ancien diplomate canadien. On va se retrouver dans un mois environ.
Tout à fait.
Merci.
Allez, au revoir.
C'était Pat Metheny Group et sa pièce Chris ou Chris.
Oui, beau souvenir. Alors, le film Avignon prend l'affiche le 5 septembre, c'est demain. Film français réalisé par Johan Dionnet. Johan, qui est un homme, qui est un comédien et qui tourne son premier film, une comédie tournée en plein cœur du célèbre Festival de théâtre d'Avignon, d'où le titre. Un film qui met en vedette l'humoriste et comédien Baptiste Le Caplain et Alison Wheeler. Alors, l'histoire, c'est Stéphane, qui est un comédien de talent, mais pas très, très occupé, là, qui débarque avec sa troupe au Festival d'Avignon pour jouer une pièce de boulevard intitulée « Ma sœur s'incruste ». Et il y croise, Fanny, une comédienne en pleine ascension, et tombe sous son charme. Et un malentendu plus tard, Stéphane laisse croire à la jeune femme qu'il incarne, Rodrigue, dans le Cid de Corneille pour tenter de la séduire. Il s'enferme dans un mensonge de plus en plus bancal le temps du festival. Et j'ai lu que, et c'est vrai, je suis d'accord, au-delà de la comédie romantique en apparence légère, Avignon explore les rapports sociaux du monde du spectacle vivant dans un cadre où se croisent des artistes de tous horizons. C'est quand même un film charmant, on se prend pas la tête, là. Si vous appréciez les comédies romantiques, le théâtre, ce film vous plaira. Je rappelle le titre, c'est Avignon, qui prend l'affiche demain dans quelques salles de cinéma du Québec. Si vous aimez le slam, le slameur Ivy, le grand slam international de Montréal, c'est lui qui est derrière ça. Cet événement en est à sa deuxième présentation cette année. C'est une occasion pour en constater toute l'effervescence et ça commence le 8 septembre et ce jusqu'au 9 novembre. Toutes sortes de parcours seront proposés dans une foule de lieux montréalais. On aura l'occasion d'y revenir. Il y a aussi une place qui est ouverte pour les amateurs ainsi qu'un volet jeunesse pour les 14 à 17 ans. C'est tout pour l'émission. Je vous souhaite une agréable journée. On se retrouve lundi prochain. Merci Mathieu Tessier à la mise en onde. Ici Hélène Denis. À lundi.